Chaque semaine, nous allons à la rencontre de nouvelles personnes, qu'elles viennent de la ville ou de la campagne, qu'elles vivent loin de son pays natal ou non. Nous lui demanderons que signifie se sentir chez soi. Home, une émission de Annie Rose à Rissendon.
Midian Rudine, I 31. Et si ou une artiste. Du coup, je m'appelle Rodine, j'ai 39 ans et je suis artiste. Alors, ma famille maternelle est de la région de Marseille, et, enfin, grosso modo entre le Var et le Vaucluse, mais dans la région de Marseille. Et ma famille paternelle vient de la région de Francfort en Allemagne. Donc, du coup, moi, je suis né en Allemagne. Et j'ai les deux nationalités, mais j'ai pas grandi en Allemagne. On est resté 3 mois et assez rapidement, en fait, mes parents, qui s'étaient eux déjà rencontrés à l'étranger avant ça, ont décidé de vivre de l'autre côté de la Méditerranée. Du coup, j'ai grandi au Maroc, en Égypte et au Liban. Et je pense que c'est par là que l'histoire commence par rapport à l'Occitan, aussi surprenant que ça puisse paraître. Parce que mes parents, ils n'ont jamais eu une attitude ou une façon d'être d'expatrié. Pour l'avoir vu beaucoup en Égypte, il y avait des sortes de cercles un peu comme ça de Français à l'étranger qui restent entre eux, qui se mélange pas trop ni aux gens, ni à la culture locale, ni même à la langue. Et à la différence de ça, mes parents m'ont beaucoup encouragé. Par exemple, quand j'étais tout petit, avant de rentrer au CP, j'étais dans une garderie marocaine où on parlait pas du tout français. Et quand je suis arrivé en Égypte, dès que j'ai eu l'âge, genre vers 7 ans, mes parents m'ont encouragé à aller jouer avec les enfants du quartier. Et j'ai appris l'arabe, en fait, comme ça, très naturellement. Et c'est vraiment le rapport que j'ai eu à l'arabe et à la spécificité locale qu'il y a dans cette langue-là, qui est à la fois une langue qui utilise un système uniforme pour tout ce qui est littérature et médias, mais où il y a une existence très forte de dialectes locaux, voire ultra-locaux, et en même temps une intercompréhension entre les différents dialectes. Et donc moi, j'avais ce rapport à la langue locale, puisque j'ai appris l'arabe en Égypte, et du coup, quand je suis arrivé au Liban, j'avais déjà cette conscience que, bon, bah, avec dans une même langue, il peut y avoir des variantes, et il y a une langue locale. Quand je suis arrivé en France, du coup, je parlais un français qui était très différent de celui des gens d'ici, et du coup, en même temps, je me suis toujours senti très marseillais à l'étranger, puisque voilà, quand je venais en France, c'était à Marseille, et quand je suis arrivé à Marseille, j'ai vu que j'avais l'esprit, mais pas l'enveloppe, quoi. Je m'en suis rendu compte de manière très pratique, hein, quand je suis arrivé, et que les gens me disaient, ah, c'est marrant, t'as un drôle d'accent, ou tu parles pas comme nous, c'est des choses quand on est ado, on s'en rend compte de suite. Il y a une autre problématique, c'est la question de l'identité aussi, c'est-à-dire qu'en ayant déjà deux nationalités et en ayant bougé souvent de pays, et en ayant eu un attachement quand même très fort à l'Égypte, pendant longtemps c'était l'endroit où j'étais resté le plus longtemps, je suis resté 8 ans quand même, j'avais un peu du mal à répondre à la question d'où tu viens. Quand j'ai appris l'occitan, je pense que j'ai appris assez vite. Je cherchais dans l'annuaire, je savais qu'il y avait la famille Guéran, en fait, une vieille famille paysanne qui sont assez nombreux. Je savais que si je trouvais un Guéran qui avait un vieux prénom, il y avait des chances qu'il parle provençal. Et j'appelais vraiment sur leur ligne de fixe, bonjour, je cherche quelqu'un qui parle provençal, jusqu'à ce que je tombe sur un gars qui me dise, ah, moi non, mais je pense qu'il m'a menti d'ailleurs, moi non, mais je connais un tel. À Marignane, lui parle très bien. Il m'a donné son nom phonétiquement. Il ne savait pas comment ça s'écrivait. Et j'ai passé des heures à chercher. Et finalement, je trouve. Et j'appelle. Et effectivement, le gars parlait super bien. Et voilà, j'ai commencé, j'ai enregistré quelques personnes comme ça. J'ai acheté une grammaire, un dictionnaire, et puis j'allais après au cours associatif. Enfin, je me suis un peu débrouillé tout seul, quoi. Le premier morceau vraiment que j'ai appris, je crois que c'est Adieu Power Carnavas, qui est une chanson de carnaval assez connue. Et je l'ai apprise avec le texte et la traduction. Enfin, pour moi, c'était, je voulais pas apprendre du yaourt, justement. Parce que c'est quelque chose que j'avais fait en fac de théâtre, dans un atelier de chant, justement, où on nous apprenait des trucs dans tout un tas de langues, et on savait, c'était que des syllabes, et j'avais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne qui nous transmettait les chants ne savait pas, et j'avais trouvé ça un peu scandaleux, en fait. À titre individuel, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, et se fait plaisir comme il veut, et chante dans la langue qu'il veut, même s'il comprend pas. Par contre, quand on est professionnel et qu'on se met sur une scène, moi, je sais pas, je considère que de ne pas parler la langue qu'on chante quand on est musicien professionnel, c'est pour moi aussi grave que de ne pas savoir accorder une guitare quand on est guitariste. C'est-à-dire que on met à la trappe toute une partie très importante de la musique, dans la musique vocale, qui est la maîtrise de la langue. Parce que ça implique à la fois de la précision dans la morphologie des sons. Et en même temps, ça implique de la précision dans l'interprétation. Parce que quand on sait ce qu'on chante, ça n'a pas le même impact et la même intention que quand on chante quelque chose qui ne veut rien dire. Et du coup, voilà, moi je ne suis pas très fan des groupes professionnels qui chantent dans tout un tas de langues qu'ils ne comprennent pas. Et il y en a beaucoup. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est ce que je pense. Déjà parce que souvent c'est des projets qui sont motivés par une sorte d'idée que chez nous il n'y a rien. Et c'est beaucoup plus intéressant les trucs exotiques. Ça soulève plein de questions, voilà, ça soulève la question du rejet de soi et en même temps de l'appropriation culturelle. J'ai eu une sorte de petite dispute un jour avec une chanteuse d'un groupe comme ça, et elle venait du Limousin et elle faisait partie d'un groupe qui chantait dans tout un tas de langues qu'elle ne comprenait pas ni ne maîtrisait. Et son discours, c'était vraiment ça. Ouais, mais de toute façon, de là où je viens, il y a rien, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de. Et ça m'a vraiment mis hors de moi. J'étais vraiment en colère contre elle parce que quelque part, en fait, elle justifiait le fait d'être ignorante de la matière qu'elle maîtrisait par le fait que y avait rien chez elle, mais en fait le fond du problème c'était qu'elle était ignorante de tout. Elle était à la fois ignorante de ce qui se passait autour de chez elle, pour autant en plus j'étais d'autant plus en colère que dans toutes les régions occitanes, il y a des associations formidables qui depuis 40 ans ou plus mènent des enquêtes et fournissent à qui veut bien écouter des heures et des heures d'enregistrement de chansons, de morceaux instrumentaux, de pratiques instrumentales. Et à plus forte raison dans le cas du Limousin, c'est un territoire qui est hyper riche musicalement. Et d'avoir quelqu'un qui venait de là-bas, qui se réclamait un peu, tu sais, du terroir, et ouais, mais non, de toute façon, chez moi, il n'y a rien. Sous-entendu, on n'est que des bouseux et on n'a pas de culture. C'était voilà, un double niveau d'ignorance qui m'a un peu énervé en fait. Et avant, j'ai envie de dire, avant d'essayer de ressembler enfin, d'imiter bêtement quelqu'un d'autre qui est très loin, essaie de savoir qui tu es et d'où tu viens. Et voilà, enfin, c'est. Après, voilà, je ne veux pas que ce discours il semble non plus excluant du tout. Hein. Je pense que je peux me permettre de le tenir dans la mesure où je sais. D'où je viens et quel bagage j'ai. Ben maintenant, je sais que je viens d'ici et je sais qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est pas quelque chose d'excluant. Enfin, encore une fois, le discours qui revient toujours en France dès qu'on a un peu une revendication identitaire, c'est oui, mais voilà, vous êtes des fascistes, vous êtes, c'est le repli sur soi. Alors effectivement. Il y a malheureusement un groupe d'extrême droite qui s'appelle Jeunesse Identitaire qui ont réussi à s'accaparer et à monopoliser ce terme-là d'identité et en faire quelque chose dont on ne peut plus parler sans risquer de se faire traiter de fasciste. Et j'ai envie de dire que c'est pas vrai. déjà d'une part, parce qu'il y a un réel problème identitaire en France. Le problème identitaire en France, on le voit, il ne vient pas des gens qui défendent les langues régionales, il vient fondamentalement du système jacobin français et de son rapport à l'immigration et de son rapport à la colonisation. En fait, on est dans un pays colonisateur qui a voulu imposer son identité aux autres, qui a commencé par imposer son identité aux autres à l'intérieur des limites de la métropole, qu'il a fait pareillement en Corse, qu'il a fait pareillement en Kanaky, qu'il a fait pareillement en Polynésie, qu'il a fait en Guyane. Le jacobinisme, c'est quoi ? C'est de considérer que l'État doit être centralisé et de considérer qu'en France, il n'y a qu'une seule langue et c'est le français. Et cette réalité-là qu'on nous martèle comme si c'était la vérité absolue n'est pas la vérité absolue. Qu'est-ce qui est fait concrètement par le gouvernement français pour réellement valoriser les langues ? Est-ce que les langues régionales sont obligatoires à l'école, depuis la maternelle jusqu'au lycée, dans tous les territoires où elles sont censées être pratiquées ? Non. Ça serait une politique réelle et d'intégration et d'acceptation de la diversité, de pouvoir dire, y compris à des gens qui arrivent en France, qui ont eux-mêmes une autre langue à la maison, de dire, regardez, chez nous, on a plusieurs langues, on est des gens ouverts d'esprit et on accepte la différence. Non, le projet français, c'est très monolithique. Mais j'ai pas de problème avec la langue française, c'est une langue que j'aime bien. Enfin, je veux dire, c'est une langue. Une langue en soi, ça a pas de projet politique. C'est ma langue maternelle, c'est la langue que j'ai apprise de ma mère. Après, j'ai envie de dire, je considère aussi l'occitan comme ma langue maternelle. Alors là, du coup, c'est une langue maternelle reconquise. Mais parce que je considère que ça aurait dû être ma langue maternelle, en fait.
Dédi la foudesse, y'a un riu qui raja, dédi la foudesse, y'a un riu qui raja, aïe mama, c'est sa bièce, comme le riu fazie en vege, aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens s'y souraient qu'un pas, voulien tout crompa, la terre est lisa au bré, voulien tout crompa, la terre est lisa au bré, aïe mama, c'est sa bièce, comme le riu fazie en vege, aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens s'y souraient qu'un pas, voulien tout crompa.